إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، نحاول أن نكمل في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى في بيت من بيوت الله ما تبقى لنا في بيان بعض ما يخص السيرة النبوية، فقد شرعنا في الأسبوع الماضي في بيان بعض النقاط المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض النقاط المتعلقة بسيرته العطرة خير خلق الله صلوات ربي عليه صلى الله عليه وسلم. وتذكيرا، قد بينا في الحصة الماضية فضل وحكم تعلم السيرة النبوية، وبينا أقوال أهل العلم وذكرنا بعضا منها، وتوقفنا أن بيانها مهم في تحقيق التوحيد ومعرفة وشهادتنا لمحمد أنه صلى الله عليه وسلم، لا شك كما ذكرناها على خمسة نقاط، أي لا تتحقق إلا بمعرفة خمس أمور من بينها سيرته. فلهذا أحببنا أن نتكلم في بعض الأمور المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحببت كما ذكرت سابقا أن جلساتنا في هذه المواضيع، بمعنى يوم الأربعاء، سنخصصها إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية. فكما ذكرت أني اعتمدت على كتاب قيم موجز مختصر فيه، ويحوي في الحقيقة أهم ما يخص سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الكتب المختصرة والنافعة الذي اخترته، اخترت تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي. ففي الحقيقة هو كتيب صغير نافع شامل، يعني سهل العبارات، سنحاول يعني عرضه عليكم كما ستسمعون بعد قليل. فبدأنا في الحصة الماضية في بيان نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا كناه وأسماؤه، ثم أيضا ذكرنا أمه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ولادته ووفاته، وأيضا دفنه وعمره صلى الله عليه وسلم. وبقي لنا بعض إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه يعني الحصة، نحاول أن نبين فيها بعض يعني أحكام أو الذي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته، ونبين أيضا، سنحاول أن نصفه إن شاء الله تعالى، أن نبين كيف وصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وسنلاحظ اعتناء الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لوصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحاول أن نتكلم أو باختصار من هم أولاده، ثم نحاول أن نبين من هم أعمامه وعماته، ونحاول أن نكمل إن تيسرنا من هذه الحصة أن نبين زوجاته. فنحاول في بعض هذه النقاط المختصرة والموجزة في بيان سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت يعني الحصة السابقة أيضا من باب التذكير، أن السيرة النبوية مهمة جدا في حياة المسلم، فلا شك أن المسلم يهتدي بهدى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يعقل أنه ممكن أن نحقق هذه الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم دون معرفة هديه. ولا شك أن معرفة هديه صلى الله عليه وسلم منتقات من سيره العطرة التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم، فهم اعتنوا في الحقيقة بنقله نقل يعني كل ما حصل له سواء في العبادات سواء في الأخلاق سواء في وصفه سواء في معاملاته سواء في أحوال زوجاته سواء في أسمائه كناه مولده كل ما تعلق ب يعني نبينا صلى الله عليه وسلم نقلوه حق النقل. لهذا العلماء اعتنوا في الحقيقة يعني بتدوين كتب كثيرة وقيمة في بيان السيرة النبوية. ومن بين هذه الكتب ومعروف عند أهل العلم أن الإمام النووي أيضا له يعني مؤلفات، خاصة هذا الكتاب الموجز في بيان السيرة النبوية. وذكرت يعني سابقا أيضا كتبا عديدة وشتى لأهل العلم، ربما نحاول أن نذكرها إن تبقى لنا من الوقت، يعني كتب نافعة في الحقيقة اعتنى بها القدامى وحتى المعاصرون، نحاول إن شاء الله أن نسردها إن تيسر لنا من الوقت. إذن نحاول أن نكمل ما تبقى لنا من بعض النقاط التي اخترتها. ففي الحقيقة كما ذكرت أيضا أن حصة واحدة أو حصتين أو حصص تعد على الأصابع غير كافية في الحقيقة في نقل يعني سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن كما تعلمون أحببت أن أعرض ما هو أهم، فلا شك معرفة نسبه، معرفة أولاده، معرفة زوجاته، معرفة أعمامه، معرفة يعني بعض أهم ما يعني ينبغي للمسلم معرفته. ففي الحقيقة يعني وهذا ملاحظ أن كثيرا من المسلمين يعني لا يعرفون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن إذا يعني طرحنا عليهم وعرضنا عليهم أسماء و أمور يعني متعلقة بالأمور الدنيوية لجهال ربما أو حتى غير مسلمين، ربما يعني سردوا لنا يعني سيرة، وربما يعني علقوا صورهم وتعلقوا بهم، وربما أحبوهم. ففي الحقيقة يعني هذا مما يعني في الحقيقة يعني يؤسف له. فلهذا لا شك أن معرفة السيرة مهمة جدا في حياة الفردية والاجتماعية سواء على الفرد أو على المجتمع. فلهذا ينبغي معرفة هذه الأمور المتعلقة بسيدنا يعني وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني في الحقيقة يعني موضوع السيرة كما ذكر أهل العلم وحتى من المعاصرين كما قاله الشيخ عمر فلاتة وهو يعني عالم من علماء المدينة النبوية رحمه الله تعالى، له يعني صوتيات متعلقة بالسيرة النووية والصحابة، فأنصحكم بالرجوع إليها. ومن علم اعتنى بالسيرة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أيضا، وهو يعني رئيس قسم العقيدة في كلية أصول الدين والدعوة في الجامعة الإسلامية، أيضا اعتنى يعني بهذه السيرة، فله يعني صوتيات وله يعني شروحات خاصة في كتاب الصحابة في صحيح البخاري. فصراحة يعني اعتنى كثيرا بالسيرة وغيره من العلم، حتى قالوا أن السيرة من العقيدة، قالوا أن من السيرة من العقيدة، فلها علاقة يعني مباشرة وغير مباشرة ومتعلقة بكل أصول الدين في الحقيقة. فإنسان لا يهمل هذا الجانب ويغلب ربما باب العبادات وباب التفقه أو باب يعني الاعتناء بالحديث أو الاعتناء أو يعني الاعتناء أيضا أو الاقتصار على يعني جانب التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فلا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لها علاقة بالحقيقة يعني وتيدة بين هذه الأصول، فلهذا يعني جعلوها من أمور الدين. الشاهد من ذلك نحاول أن نكمل يعني ما تبقى لنا من بعض النقاط التي اخترتها، يعني أركز أن يعني اخترت بعض النقاط من كتاب التهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تعالى. توقفنا في فصل من أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc je disais, on continue la suite concernant la biographie de notre prophète صلى الله عليه وسلم. Et la semaine dernière, on avait abordé, on avait commencé la traduction avec ce qu'on peut. Du livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala qui s'appelle Tahrib al-Sira al-Nabawiya, et en réalité c'est un résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est simple, je vous recommande de l'avoir et de le lire. Il existe en arabe certainement, en français j'ignore s'il est, toujours, il est traduit ou pas, mais c'est un bon ouvrage pour connaître le minimum sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, j'ai cité la semaine dernière, bon, la semaine précédente, le jugement et l'importance de connaître la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a cité que la, ça fait partie de la réalisation de du témoignage de, que le prophète, que Mohammed est le prophète et le messager d'Allah. Donc certainement, pour réaliser ce témoignage, certainement il faut le connaître. Comment on peut témoigner et attester qu'il est le messager d'Allah, sachant qu'on n'est pas sa biographie? Ses descendants ou ses ancêtres, connaître sa mère, connaître sa date de naissance, connaître ses femmes, connaître ses enfants, connaître ses oncles, soit paternels, oui, etc. Il y a beaucoup de choses qui font partie de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas suffisant de connaître les hadiths, c'est-à-dire les actes qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais connaître aussi sa personnalité, sa biographie fait partie de la réalisation du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. Et on a cité la parole de Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab quand il a cité dans les trois fondements ce point, et on a lu ensemble l'explication de Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala concernant ce point. Donc Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah, il a dit, pour la connaissance du prophète sallam, on englobe cinq choses. Parmi les cinq choses, vous trouvez ça dans l'explication des trois fondements de Cheikh al-Uthaymeen, il a dit connaître sa biographie. Donc certainement, on est recommandé, donc ce qu'on déduit, que on est recommandé de connaître la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis que les savants, rahimahullah, comme Cheikh Omar Fallada, c'est un grand savant qui est décédé, rahimahullah, qui a donné des assises pour plusieurs années, qui s'est intéressé à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a des enregistrements et des audios concernant la biographie, et même la vie des compagnons, la vie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite de les revenir. Et autres savants, comme Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab Al-Aqil, qui est aussi professeur à l'université de Médine, et autres savants, ils sont intéressés jusqu'à un point où ils ont dit que la connaissance de la biographie du Prophète fait partie du dogme d'une autre foi. Donc certainement, soit avec une liaison directe ou indirecte, mais dans tous les cas, si on cherche bien, on trouve qu'il y a toujours un lien avec la biographie. Pourquoi? Parce que chaque musulman doit se comporter comme le prophète s'est comporté, doit parler comme le prophète a parlé, doit assis comme le prophète s'est assis, il doit se comporter avec les gens comme le prophète s'est comporté avec les gens, soit musulman, non musulman et autres. On doit se comporter avec nos femmes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ses femmes, etc. En réalité, notre vie individuelle ou collective dépend et revient à la connaissance, et certainement on ne peut pas pratiquer sans connaître. Donc on doit savoir comment et qui et avec qui le prophète a passé sa vie, et ensuite sera facile et un point pour commencer à pratiquer cette biographie, parce que ce n'est pas suffisant de connaître, parce que c'est très simple de prendre un livre et citer qu'est-ce qu'il a fait le prophète, qu'est-ce qu'il a eu, qui sont ses femmes, comment lui s'est comporté avec ses femmes, etc., avec les enfants, avec tout. En réalité, toute la vie quotidienne, certainement, on a besoin de cette connaissance, mais certainement, on doit savoir avant de pratiquer. Donc si on a des problèmes avec les gens, ou avec nos femmes, ou avec nos enfants, ou avec autres, soit même les animaux, soit des êtres humains, musulman, le musulman, on a une faille, on a un défaut, on a un mal comportement, donc certainement il revient à l'ignorance de la biographie de notre prophète. Certainement, parce que par exemple, pour savoir que comment il a patienté le prophète avec à son époque et avec qui il était, si on ne sait pas à quoi il a patienté le prophète, on ne peut pas avoir une image ou avoir cette patience comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, la perfection revient ou tend vers la perfection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut être le meilleur, avoir le meilleur comportement, qu'il essaie de faire ressembler son comportement au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut être le plus beau physiquement, qu'il qu'il fait comme il a fait, comme il était le prophète sallam. Celui qui veut être le plus adorateur d'Allah, bah, qu'il adore Allah comme le prophète, pas plus, pas moins. Parce que certainement, on ne peut pas faire plus que lui. Moins, ça oui. Mais nous, on est recommandé de faire, ou se rapprocher, à l'image du prophète sallam, dans tous les côtés, soit comportement, soit adoration, dans tout. Donc, certainement, on doit connaître avant de pratiquer. Donc, revenons à l'ouvrage de l'imam Nawawi rahimahullah, qui s'appelle Tahdhib As-Sira An-Nabawiyyah. Et peut-être on aura l'occasion, si on aura le temps à la fin, de citer certains ouvrages, des bons ouvrages connus, qui sont les petits ou les moyens ou de longs ouvrages qui traitent la biographie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, à la fin de la session, si on aura le temps. Donc on s'est arrêté. Donc, on a parlé sur les ansars du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine précédente, on a parlé sur ses noms et sur ses surnoms. On a parlé sur sa mère, on a parlé sur sa naissance, son décès, son enterrement. Et peut-être on va commencer le reste parmi les points que j'ai choisis de cet ouvrage. Comme je dis que ce n'est pas suffisant de traiter tout l'ouvrage sur une ou deux assises, mais quand même on fera le maximum pour traiter le maximum de points, inshallah ta'ala, de cet ouvrage important. Donc on s'est arrêté à qui allait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aya man ya'ni yadhakkirna man arra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut nous rappeler? On a cité les personnes qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ahsant, هذه الأولى. حليمة السعدية. نعم, أحسنت. Donc, قال المؤلف رحمه الله, أي الإمام النووي, فصل أرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة بضم المثلثة مولاة أبي لهب أياما. Donc, la première qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la deuxième qui est connue, la plus répandue, que c'est Halima al-Sa'diyya, mais en réalité, il y a une qui a précédé Halima al-Sa'diyya, qui s'appelle Thuwayba, qui était Mawlat Abi Lahab. Il était une esclave de Abi Lahab. Qui est Abi Lahab? Qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une esclave qui s'appelle Thuwayba, donc c'est elle qui est la première qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a allaité quelques jours. Thumma arra'athu Halima, arra'athu Halimatu bintu Abi Du'aybi Abdillah ibn al-Harith al-Sa'diyya. Donc, la deuxième qu'il a allaité, c'est Halima al-Sa'diyya. Wa ruya anha anna qalat kana yashubbu fil yawm shabab as-sabi fi shahr. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il progressait, ou il grandissait, une progression d'un jeune homme. Hein? D'un jeune homme pendant un mois. C'est-à-dire il progressait vraiment plus que rapide par rapport aux autres. Donc ça c'est Halima al-Sa'diyya qui l'a allaité, elle raconte ça et s'y a rapporté d'après elle. Elle a dit, « Kana yashubbu fil yawmi » sa progression d'une journée, elle est équivalente à une progression d'un jeune homme d'un mois. Naam. Wa nasha'a sallallahu alayhi wa sallam yatiman fa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib thumma 'ammuhu Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi orphelin. Et son grand-père, Abdul Muttalib, qui s'occupait de lui, ensuite, Ammuhu Abu Talib. Et on a expliqué que le terme orphelin, que signifie le terme yatim, qui est orphelin, man, naam, man mata abuhu dun al-bulu. En réalité, al-yatim, c'est celui où son père est décédé, et non pas les deux parents. Son père qui est décédé avant qu'il atteint l'âge de puberté. Donc ça, c'est la vraie définition du terme al-yatim. Même s'il y en a qui le définissent, qui que soit la mère ou le père ou les deux, mais la plus juste définition c'est si le père est décédé avant qu'il atteigne l'âge de puberté, c'est-à-dire l'enfant ou la fille. Na'am. Wa taharahu Allah azza wa jal. Donc on continue ce qu'il a dit l'auteur, l'imam Nawawi. Il a dit wa taharahu Allah azza wa jal min danasil jahiliyati. Et Allah Ta'ala il a purifié de la saleté de l'époque pré-islam. فَلَمْ يُعَظِّمْ صَنَمًا لَهُمْ فِي عُمْرِهِ قَطْ. Il n'a pas glorifié une idole, non, une idole jamais dans sa vie. Il n'a jamais glorifié une idole dans sa vie. وَلَمْ يَحْضُرْ مَشْهَدًا مِنْ مَشَاهِدِ كُفْرِهِمْ. Il n'a jamais assisté à une assemblée, une assise de mécréance. Remarquant que les qualités et les caractéristiques et comment notre prophète a vécu. Naam. Wa kanu yatlubunahu lidhalika fayamtani'u wa ya'simuhu Allah ta'ala min dhalik. Pourtant, les gens le demandaient à participer à ces assises ou ces assemblées où il y a certaines pratiques de mécréance, mais quand même il refusait. Ce paragraphe que je viens de lire, certainement avant le Ba'th, marhalat al-Ba'th, comme on dit. Avant la révélation. Donc ça c'est pendant sa jeunesse, il a eu ces choses. Pourtant que avant la révélation, il était loin de l'âge de révélation, mais quand même de sa jeunesse, il a eu ça. Que Allah Ta'ala n'a jamais, il a purifié de certaines saletés de l'époque de pré-islam, al-jahiliya, où s'il n'a jamais assisté. Pourtant, il était comme tout le monde. Mais Allah Ta'ala, il a fait ces choses qu'il a éloigné de ces choses. Aussi, wa fil hadith, an Ali radiallahu anhu, et selon le hadith qui a rapporté Ali radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال ما عبدت صنما قط. Le prophète, il a dit, je n'ai jamais adoré une idole. وَمَا شَرِبْتُ خَمْرًا قَطُّ. Et je n'ai jamais bu de l'alcool. وَمَا زِلْتُ أَعْرِفُ أَنَّ الَّذِي هُمْ عَلَيْكُفْ. Subhanallah, malgré cet âge, le prophète, il a dit, je n'ai jamais adoré une idole et je n'ai jamais bu de l'alcool et je sais qu'aujourd'hui sur quoi ils sont, c'est de la mécréance. Vous remarquez que avant la révélation quand même sa nature et son âme indiquaient que c'est des choses qui ne faisaient pas de le fait de l'islam, et c'est pour ça qu'il a dit ça sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ أَنْ بَرَّأَهُ مِنْ دَنَسِ الْجَاهِلِيَةِ. Et cela certainement, c'est la grâce d'Allah qui l'a acquitté de ses saletés de l'époque de pré-islam. وَمِنْ كُلِّ عَيْبٍ. Et aussi l'a acquitté de tout défaut. وَمَنَحَهُ كُلَّ خُلُقٍ جَمِيلٍ. Et aussi l'a donné tout bon comportement. حَتَّ كَانَ يُعْرَفُ فِي قَوْمِهِ بِالْأَمِينِ. Jusqu'à un point où il était surnommé dans son peuple par Al-Amin, le confiant, hein, le digne de confiance. Barakallahu fik. Donc, tellement il était, qu'Allah Ta'ala il a acquitté de ces choses, il est connu entre son peuple par digne de confiance, Al-Amin. لما شاهدوا من امانته وصدقه وطهارته. D'après ce qu'ils ont vu, ils ont vu sa confiance et sa sincérité et sa purification. ولما بلغ 12 سنه. Ensuite quand il a atteint l'âge de 12 ans, vous remarquez ce qu'on avait dit, certainement il était avant qu'il atteint l'âge de 12 ans. Après qu'il a atteint l'âge de 12 ans, خرج مع عمه ابي طالب. Il est sorti avec son oncle Abu Talib il est Sham hatta balagha Busra, jusqu'à qu'il a atteint la ville qui s'appelle Busra. Fara'ahu Buhayra al-Rahib fa'arafahu. Quand il est arrivé, c'est-à-dire il est sorti pour la destination du Sham, quand il est arrivé à la ville ou l'endroit Bosra, qu'il a vu, c'est Buhayra al-Rahib. Buhayra al-Rahib, c'est le mon ou quelque chose. Donc, le rabbin qui s'appelle Buhayra, fa'arafahu bisifatihi. Le rabbin qui s'appelle Buhayra, il a reconnu de ses caractéristiques, à partir de ses caractéristiques, faja'a wa akhama biyadihi. Il est venu, il a pris de sa main. Remarquez, le rabbin Buhayra, il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a pris de sa main, waqal, il a dit, c'est-à-dire le Buhayra, le rabbin, il a dit, هذا سيد العالمين, هذا رسول رب العالمين, هذا يبعثه الله حجة للعالمين. Allahu Akbar. Remarquez ce qu'il a dit, écoutez ce qu'il a dit Buhayra, le rabbin a dit, هذا سيد العالمين, هذا رسول رب العالمين. Celui-là, il est le messager du Seigneur des mondes. هذا يبعثه الله حجة للعالمين. Celui-là, Allah Ta'ala, il envoie un argument pour les mondes. Pour les deux mondes, c'est ça? Al-alamin. Les mondes en réalité, c'est le pluriel. Donc vous remarquez qu'est-ce qu'il a dit le rabbin Buhayra, quand il a vu, il a reconnu directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, ça c'est un rabbin. Il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le voir. Il n'a jamais vu. Mais comment il a connu? Comment il a reconnu? Oui, dans les livres, il y a une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand même, il s'est intéressé à connaître cette description. Et vous remarquez l'importance de connaître. Naam. On va l'écouter, Inch'Allah. Naam. قالوا. Donc ils ont dit, فَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هَذَا. Ils ont posé la question au rabbin Buhayr, comment as-tu su cela? قال. Il a répondu, il a dit, إِنَّكُمْ حِينَ أَقْبَلْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ. Regardez, subhanallah, le signe, comment il a reconnu que c'est le messager du Seigneur des mondes et c'est l'argument pour le monde. Il a dit, le rabbin a dit, إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا. الله أكبر. Le Buhayra, il a dit, quand vous êtes venu ou quand vous avez apparu d'une montée, العقبة c'est une montée, quand vous êtes apparu de cette montée, il a dit, il n'y avait pas ni arbre ou une pierre, elle n'a pas prosterné. Illa sajida. Wala yasjudu illa li nabi. Il ne prosterne pas que pour un prophète. Remarquez comment il a reconnu. Il y a une question, Inch'Allah. On va essayer d'aider cette personne, Inch'Allah Ta'ala, juste après la 6. Inch'Allah Ta'ala. Allah. On continue, Inch'Allah. Donc il a dit, le rabbin, إِنَّكُمْ حِينَ أَقْبَلْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَى شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَجْدُدُ إِلَّا لِنَبِيٍّ وَإِنَّا نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا. Donc il a dit, lorsque vous avez apparu de cette montée, il n'y avait pas un arbre ou une pierre, elle n'a pas prosterné. Et il ne prosterne pas que pour un prophète. et cela on le trouve dans nos livres. Donc c'est pour ça qu'il a reconnu le rabbin Abu Hayra que c'est un messager ou que c'est un prophète d'après qu'il était indiqué dans leur livre.
ويسأل أبا غالب أن يرده خوفا من اليهود فرده.
Donc le rabbin, il a demandé à Abu Talib qu'il le retourne de peur des juifs, et Abu Talib il a retourné, c'est-à-dire vers la Mecque, n'a'am barakallahu fi. Donc il a retourné. Donc ça c'est le conseil de rabbin Buhayra par peur des juifs.
N'a'am. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثاني الى الشام مع ميسرة.
Ensuite, une deuxième fois, le prophète صلى الله عليه وسلم il est ressorti au Sham, mais cette fois avec ميسرة, qui est un غلام de Khadija, c'est un esclave de Khadija qui s'appelle ميسرة. Il est ressorti une deuxième fois avec l'esclave de Khadija رضي الله عنها في تجارة, pour un commerce.
لها قبل أن يتزوج
avant qu'il se marie avec Khadija, certainement,
حتى بلغ سوق بصرة.
فلما, donc jusqu'à il atteint le marché de Bousra.
فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة.
Quand il a atteint l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija, qui est bientôt خويلد. نعم. Donc à l'âge de 25 ans, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija.
ولما خرج الى المدينه مهاجرا خرج معه
من. Quand il a fait l'immigration au Médine en immigrant, il est sorti avec lui Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu.
ومولى أبي بكر.
Et la troisième personne qui est sortie avec lui, c'est-à-dire là c'est l'immigration. Vous remarquez là on parle vraiment rapidement et en gros, on résumé sur l'immigration. Certainement l'immigration nécessite des assises et des assises. Mais c'est vraiment un résumé, c'est l'objectif au moins connaître ces choses. Parce que certainement, il y en a qui ne connaissent même pas qu'il a immigré. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi il a immigré, etc. Donc, il faut savoir ça, c'est important. Et aussi, la troisième personne qui est sortie avec le professeur Zalem, après Abu Bakr, qui est le guide de... qui est roulin de qui? C'est un esclave de Abu Bakr.
Naam. Wa mawla Abi Bakr, Amir ibn Fuhayra. Il s'appelle Amir ibn Fuhayra bidhammi al-fa. Wa daliluhum,
et aussi leur guide était qui? Ils étaient trois, mais le quatrième qui était le guide.
Naam. C'est un mécréant qui s'appelle, ou qui est Abdullah ibn al-Urayqib al-Layhi wa huwa kafirun wa la yu'lamu lahu
islam.
وَلَا يُعْلَمُ لَهُ إِسْلَامُ.
Donc la quatrième personne qui était le guide, qui est Abdallah ibn al-Urayt al-Layth, wa huwa kafirun wa la yu'lamu lahu islam. Donc là, dans l'immigration, il est parti avec lui Abu Bakr Siddiq et le ghulam ou le maula de Abu Bakr, qui est Amir ibn Fuhayra, et la quatrième personne qui est le guide, qui s'appelle Abdallah ibn al-Urayt. Et c'est un, il était mécréant et il n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas reconnu qu'il s'est converti.
Juste cette phrase pour vous donner une pratique que l'importance de connaître la biographie.
Certains savants, à partir de cette phrase, qu'est-ce qu'ils ont tiré? Ils le sont à partir de cette phrase. Qu'on peut utiliser le mécréant. On peut se servir des mécréants. Pourquoi? Parce que certaines, malheureusement, parce qu'on ignore la biographie de l'Ambassade de
l'Homme. « Il va dire non, on
ne peut pas utiliser un kafir pour. » On va dire si. Parmi les choses, c'est là. pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé un mécréant. Pourtant, il existe des musulmans. Oui ou pas? Aïe. Il y avait des musulmans qui connaissaient bien le chemin. Là. D'accord, peut-être ça fait partie de la connaissance, mais aussi. Pas loin, mais. Il y a certains ulama, ils ont dit un terme, ils ont donné cette faïda. لِأَنَّهُ كَانَ ثِقَةً. Parce qu'il était digne de confiance. Et ça, le Premier Rahimahullah, dans Bab Siyam, dans le chapitre du jeûne, ici il dit, et on peut, par exemple, je donne le cas exact, et ça arrive malheureusement, certains musulmans pensent beaucoup ça, c'est pour ça que je préfère de le dire. Certains musulmans, ils disent que je préfère un médecin musulman qu'un médecin mécréant. Ça existe, ça. Je l'ai entendu plusieurs fois parce qu'on a discuté plusieurs fois avec ces gens. Je préfère un médecin mécréant qu'un musulman que, sachant que les deux, ils travaillent. Chacun fait son propre travail. Ou des fois, peut-être le mécréant, il pratique plus que son domaine que le musulman. Ça peut arriver, ou vice-versa. Mais malheureusement, c'est devenu que un médecin mécréant, non. Ou par exemple, pour faire al-khitan, la circoncision. Souvent, j'ai eu des cas, on avait parlé. Non, je cherche un tabib musulman. Pourquoi? Pour faire khitan. Non, je préfère un médecin. Pourquoi? Non, je ne veux pas un médecin mécréant. On dit non. Là, dans ce domaine, on revient à celui qui est apte dans son domaine et digne de confiance. Ça ne veut pas dire parce qu'il est musulman, donc il va être parfait. C'est-à-dire, il est digne de confiance, qu'il peut faire son travail correctement. Non. Malheureusement, ce n'est pas tous les cas. Mais, il ne faut pas avoir cette image de dire non, je préfère le mécréant que... Non. Ça, ce n'est pas une adoration là. C'est pas une sadaqa, c'est pas demander de sortir zakat al-mal, je te dis, à qui tu dois la donner, tu me dis non, je vais pas la donner à Kaveh, parce que c'est normal, il ne la mérite pas, parce qu'il ne fait pas partie des 8 catégories qui sont citées dans le Coran. Ça, il n'y a pas de divergence sur ça. On parle sur une pratique, ou un domaine, que des fois on peut trouver le musulman et le mécréant, ils ont le même niveau. Et surtout, on revient... On remarque celui qui a plus ou qui est plus digne de confiance. En réalité, on ne revient pas. Et sur la famille, c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de mal de revenir, par exemple, au médecin pour avoir l'état de la femme ou l'état de l'homme, s'il est apte de faire le ramadan ou pas. Et après, il dit, est-ce que c'est une condition qu'il doit être musulman? C'est ça. Dans une messagerie, il a dit, وَهَلْ يَشْفَرَ l'islam. Il a dit non. La preuve, il a cité cette histoire. Il a dit que le prophète sallam, il a utilisé un mécréant. Il est mécréant. Il n'est pas reconnu. Parce qu'il va dire non, il s'est converti. En réalité, non, il ne s'est pas converti. Il est mécréant. Mais parce que certainement, il connaît son domaine, qu'il connaît le chemin. Et surtout, sur la famille, il insiste, il dit, il n'y a aucun athéra. Parce qu'il était digne de confiance. Donc, c'est-à-dire, le repère, c'est s'il est digne de confiance ou pas. C'est pas parce que sa confession c'est l'islam et l'autre un chrétien, l'autre juif. Non. Certainement, il faut regarder qui est digne de confiance et certainement qui travaille. Donc, remarquez, juste ça, on peut tirer une faïde. Hein. Parce que là, ils vont dire, mais c'est quoi l'importance de connaître tout ça, puis il a immigré. Même dans l'Hijra, on peut faire des années en parlant juste sur l'Hijra. Pourquoi le prophète a fait l'Hijra, l'immigration? On tire des leçons en réalité. Mais ça, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais normalement, on aura l'occasion, inshallah ta'ala. Même dans le Ghazawat qu'il a fait, les guerres et les batailles qu'il a fait, qu'est-ce qu'on peut tirer? Et c'est par exemple les choses qu'on peut tirer. Par exemple, si on veut savoir comment Allah ta'ala nous donne la victoire. Kayfa, yani, bien sûr, en Allah. Si on veut la victoire, comme il prétend certains gens, comment? On revient au sujet du Prophète. On remarque comment 313 personnes, ils ont battu 1000. Comment? C'est pas histoire de force, ou d'armes, ou des avions. Non, c'est autre chose. Voilà, et beaucoup, beaucoup de choses. En réalité, on ne peut pas. Normalement, Inch'Allah, si on aura le temps, on consacrera des assises concernant ça. En réalité, chaque événement du Prophète, normalement, ça nécessite une assise. Chaque événement, pas toute sa vie. Chaque événement peut tirer des milliers de leçons. Donc, c'est pour ça, le ulama, quand ils disent connaître la biographie fait partie de la foi et du dogme, certainement, il y a quoi à dire dans ces sujets, Inch'Allah Ta'ala. Donc, remarquez juste cette phrase, j'ai donné cette leçon parce que j'ai trouvé importante et qui citait, si vous voulez revenir en plus de détails, dans les livres des savants, Inch'Allah Ta'ala. Non. On passe à un autre point qui est fi sifatihi sallallahu alayhi wa sallam. Comment, c'est-à-dire physiquement, il était. Qui connaît comment il était physiquement, en détail? Aïe. من يعرف وصف أو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم بالتفصيل بالتفصيل ما شاء الله صح ما شاء الله parce que on n'a pas compris la langue arabe. C'est ça, donc. Malheureusement, notre niveau de la langue arabe. Il y a des milliers de hadiths, beaucoup de hadiths, afwan, qui donnent la description du Prophète. Et on remarque, et en réalité, ce qu'on tire juste de ça, l'importance de connaître et transmettre ça. Parce que si ce n'était pas important, pourquoi les Sahaba, les compagnons du prophète, transmettent ça? Certainement, si on souhaite atteindre un niveau de perfection dans tous les côtés, et on va voir comment elle était physiquement. Voilà. Celui qui veut être Ajmal, fal yatajammal kama tajammal an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut être beau, ben qu'il ressemble au prophète. Et ne pas, par exemple, malheureusement, est-ce que le prophète il était comme ça? Et on va citer ses cheveux, comment ils étaient, ses habits, tout le détail, si on veut vraiment avoir cette ressemblance, ben qu'on ressemble au notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fi sifatihi. Certainement, il y a des termes, vraiment, comme il a dit le frère, en fait, c'est la langue arabe. Nous, on dit difficile, en fait, non, parce que notre niveau il est faible, on juge qu'il est difficile. En réalité, c'est la langue, c'est qu'il parlait normal. C'est la langue où il parlait normal, sans faire un effort, sans revenir à un dictionnaire. C'est la langue arabe qu'il parlait normal. Mais malheureusement, notre niveau de la langue arabe a vraiment baissé, et on avait parlé sur ça. Donc c'est pour ça qu'on trouve une difficulté dans les termes. Donc on va expliquer avec ce qu'on peut, Inch'Allah. Na'am, fi sifatihi sallallahu alayhi wa sallam. Juste avant de commencer, c'était avec quelques temps, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne, et je lui ai posé une question, il n'a pas pu répondre. Sur quoi? Et ça, il faut le savoir aussi. C'est pour ça que je préfère de le dire. Il m'a dit, moi j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Il dit, t'as rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, ouais. Il dit, hal ta'arif sifatahu. Est-ce que tu peux le connaître, reconnaître son physique? Comme il était? Il m'a dit non. Comment tu peux savoir ça? Comment tu peux savoir? C'est pas parce qu'il vient avec une, une imagination ou qu'avec un camis blanc et une rotra blanche, il va dire que c'est moi. C'est non. Non. Parce qu'on sait que le hadith, qu'un shaitan, la yatamathal, bi surat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On sait bien que le hadith, que le shaitan, si c'est un hulum, soit c'est une ru'ya, ça c'est autre chose, mais un hulum, certainement c'est le shaitan qui fait imaginer la personne ces choses, fait voir la personne des choses, mais il peut ressembler à autre chose, mais prononcer que je suis le prophète. Il peut. Qui l'empêche? On sait bien qu'il ne peut pas ressembler au prophète, parce qu'il ne peut pas. Ça c'est le hadith. Que le shaitan, il ne peut pas se ressembler au prophète. Mais ça veut pas dire qu'il peut prononcer. Ou notre personne va dire, je suis le prophète. Qui t'empêche à voir ça? Quand j'ai dit, comment il était le prophète? J'ai dit, donne-moi juste sa taille. Il m'a dit un chiffre. Wallah, et c'est malheureusement, c'est l'ignorance qui fait parler la personne. Il m'a dit un mètre, quelque chose. Je ne dis pas. N'aoudou billah, wallah, c'est malheureusement. Il croit vraiment, il a vu. Du coup, comment ils étaient ses yeux? Un noir. Non, qui t'a dit que c'est moi? Comment on peut oser à dire que moi j'ai rêvé plusieurs fois du prophète? Comment? Et tu sais même pas comment il est. Physiquement, tu sais même pas comment il est. Sur un main de jour, tu ne peux pas distinguer celui le prophète. Bouhaira, comment il a reconnu? Parce qu'il connaît ses caractéristiques. Même s'il a vu des autres signes, mais quand même, dès qu'il a vu, vraiment, il a reconnu. Mais nous, on est des musulmans. Et on dit, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mais malheureusement, on a du mal à reconnaître le prophète. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su. On n'a jamais appris. On ne fait pas l'effort pour apprendre ou reconnaître ou apprendre nos enfants, surtout, parce que les enfants aussi, c'est très important. Comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement? C'est vrai, parler sur sa vie du couple ou avec comment il se comporte avec les gens à l'extérieur, etc. C'est vrai, ça apporte des hadiths. On lit ça, mais aussi connaître et reconnaître son physique, ça fait partie, parce que il faut connaître. La raison pourquoi les sahabas sont intéressés à reconnaître et transmettre tous ces petits détails. Tout. Il n'a rien lâché. Sahaba, ils ont tout transmis. Tout. Ils n'ont rien lâché. On va écouter, inchallah, comment il était physiquement. Salawatullahi rabbi wa sallam. Naam. في صفته صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير. La première chose, sa taille. Comment il était le prophète sallam? Ils ne vont pas dire à telle taille. Non. On ne peut pas arriver à ça. Mais قال الإمام النووي رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم Laysa bitawil, il n'était pas long de taille, et il n'était pas aussi petit. Et ça par rapport à quoi? Parce que comment on peut dire grand ou petit par rapport à quoi? Par rapport aux gens à cette époque. Je ne sais pas. C'est-à-dire à l'époque, par rapport aux gens qui étaient autour du prophète sallam, il n'était pas plus grand qu'eux, trop grand par rapport à eux, il n'était pas aussi plus petit qu'eux. Donc remarquez, sahaba, ils n'ont pas dit un mètre et... Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas donné un chiffre. Il a donné une moyenne, voilà, il n'est pas très très grand, il n'est pas très petit. Laysa bi at-tawil al-ba'in, c'est-à-dire énormément long, ou apparent. Comme de certains autres sahabas, qui étaient vraiment bitawil al-ba'in, et aussi n'étaient pas petits. Wala al-abyad al-amhaq, il n'était pas, sa couleur, il n'était pas vraiment blanche, sa peau n'était pas vraiment blanche, mais amhaq, trop blanche. Abyad c'est blanche, mais amhaq c'est vraiment trop blanche. Parce que des fois, il y a des gens qui sont blancs, mais quand même, ils sont trop. C'est ça l'abid, l'amhaq. Wala l'adami. Naam. Pas noir, dans le sens. L'adam. il n'était pas vraiment très, sa peau était très très blanche, abusivement très blanche, et il n'était pas aussi vers le noir. Donc vous remarquez, c'était entre les deux.
وَلَا الْجَعْدِ الْقَطَطِ.
Là, je sais que c'est des termes, je sais qu'il y en a, ils vont dire avec quoi on parle, mais on parle avec la langue arabe. Qu'est-ce que je vais vous dire?
وَلَا الْجَعْدِ الْقَطَطِ.
Que signifie الْجَعْدِ الْقَطَطِ? Là, là, ça c'est concernant ses cheveux. Non, c'est le contraire. الْجَعْدِ الْقَطَطِ, c'est-à-dire ses cheveux n'étaient pas bouclés ou frisés.
وَلَا الصَّبْدِ.
الصَّبْدِ, c'est le contraire, c'est-à-dire des cheveux, c'est-à-dire elles n'étaient pas bouclées ou frisées, et aussi elles n'étaient pas trop lisses. Donc c'était entre les deux. Est-ce que c'est clair? Parce que par exemple, on trouve... il y a certains pays ou certains gens, déjà leurs cheveux à la base, ils sont bouclés. C'est à la base. Il n'y a pas besoin de faire. Et certains gens, c'est le contraire. On trouve des Japonais, etc. On trouve vraiment leurs cheveux, ils sont vraiment très très lisses. Et lui, il n'était ni ça ni ça. C'était entre les deux. Est-ce que c'est clair?
Al-Ja'd. Al-Qatit.
Non, al-ja'd al-qatit, bouclé. Deux synonymes. Et le deuxième, as-sabd, très lisse.
Naam, ghad, barakallahu fi.
Naam.
Wa tuwfiya wa laysa fi ra'sihi 20 sha'ratan bayda'a.
Il est décédé, il avait moins de 20 cheveux blancs.
Wa kana husna al-jism.
Il avait un beau corps.
Ba'ida ma bayna al-mankibayn.
Large des épaules. Donc vous remarquez, on a parlé sur sa taille, ses cheveux, sa couleur et large entre ses épaules.
Ba'id ma ba'id ma bayna al-mankibayn,
c'est les épaules. Large entre les épaules.
Lahu sha'run ila mankibayh.
Il avait des cheveux jusqu'au camp, jusqu'aux épaules. Et là, ça prouve que le prophète, il avait des cheveux longs, et c'est le contraire de ceux qui disent qu'il n'avait pas des cheveux longs.
Naam. Lahu sha'run ila mankibayh,
jusqu'aux épaules.
Wa fi waqtin.
Et dans un autre temps, ou des fois,
ila shahmatay udunayhi.
Comment on dit shahmatay udunayhi? C'est-à-dire, c'est ça le mouchke. Comment je vais expliquer shahmatay udunayhi? L'essentiel, qu'il avait des cheveux jusqu'aux oreilles, c'est-à-dire la limite inférieure des oreilles. Hein? Au lobe des oreilles, c'est ça? Ça s'appelle lobe. Shahmat al-Udun, jusqu'au lobe, d'après Cheikh Hassan. Comme ça, c'est lui, c'est pas moi qui l'a traduit. Jusqu'au lobe, ou, on va dire pour simplifier, la limite inférieure des oreilles.
Ila shahmati udunayhi, wa fi waqtin ila nisfi udunayhi.
Et aussi, des autres temps, c'est-à-dire au moitié des oreilles. C'est-à-dire, on remarque la taille des cheveux, c'était une fois au moitié, une fois à la fin, et des fois, même aux épaules.
Naam. Kathul lihya.
Naam. Lihya, sa barbe, elle était dense. Dense.
Voilà. Kathul lihya. Chefnu al-kafayni. Chefnu ay ghalir. Chefnu abishini wa thai wa nul. Chefnu al-kafayni ay ghalir al-asabi'a.
Ses doigts, elles étaient ghalir. pas grosse, mais large, large ou grosse, pour dire ghalir. Des gros doigts, voilà. Ces doigts, elles étaient grandes. Na'am. Dhakhma ras, sa tête, elle était grosse. C'est-à-dire, sa tête, elle était grosse. Wal-karadis. Je parle en arabe, wallah. Je parle en arabe. Wal-karadis. Que signifie le kardous? Al-karadis, jam'u kardous. وهي كل عظم يعني كل عظمين التقيا في مفصل. Toutes les articulations des membres, ça il s'appelle le kurdous. Ça, comment on appelle ça? Là, les articulations des coudes, les articulations des poignets, les articulations des genoux et le quatrième peut-être des pieds, voilà, toutes ces articulations elles étaient grosses. Na'am. Wa fi wajhihi tadwir, son visage il était rond, il était presque rond. Ad'ajul aynayni, أي أنه صلى الله عليه وسلم شديد سواد العينين. Ses yeux étaient vraiment de couleur noire. طويل أهدابهما. Donc ses yeux, ils étaient vraiment de couleur noire foncée. طويل أهدابهما. Les sorties, les étaient longues. Les cils, ouais, voilà, les cils. Naam, les cils. Elles étaient longues, c'est ça? Naam. Ahmar al-ma'aqi. Al-ma'aqi, jam'u mu'aq, wa huwa mu'akhir al-ayn. C'est-à-dire, la limite ou la profondeur des yeux, c'est-à-dire là quand on tourne l'œil à droite ou à gauche, c'est une limite. Limite, elles étaient rouges. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire les limites de ces yeux, les limites en profondeur, c'est-à-dire quand on tourne à droite ou à gauche, même on remarque entre nous, on a des petites uruq humra, des petits uruq kifngul, des petites veines rouges de ce côté, c'est-à-dire c'est là ce qu'on appelle Al-Ma'aqi. Naam. Dha masrabah. Que signifie dha masrabah? Ay, wahya al-sha'ru al-raqiq. Donc il a aussi, en plus de ça, il avait al-masrabah, qui est al-sha'ru al-daqiq min al-sadri ila al-surra kal-qarib. Il avait des poils sur le torse, mais jusqu'au nombril. Est-ce que c'est clair? De la poitrine ou du torse jusqu'au poitrine sous forme d'un qadib, d'un bâton. Voilà. Naam. Ida masha taqalla'a ka'annama naam yanhattu min sabr ay yamshi bi quwwah wa sabr al hudur. Quand il marchait, Il donnait l'impression qu'il passe avec force, qu'il marche avec une force. Donc ça c'est le sens de il a marché taqalla'a ka'annama yanhattu min sabib. C'est comme il descendait d'une descente, mais dans ses marches, on a l'impression qu'il marche avec une force. Ay yamshi bi quwwa wa sababu al-hudur. Yatala'la'u wajhuhu son visage, il était comme, il brillait comme la lune en pleine lune. Donc ça c'était son visage. Son visage c'est comme la lune ou la pleine lune. Hassanu sawt, sa voix, elle était une belle, naam, il avait une belle voix. Sahlul khaddain, dhali'u al-fam. Naam, al-khaddain c'est les joues.
الله أعلم. Je sais pas comment traduire ça. والله ما يحضرني يعني بعبارة سهلة ومرادة في كلمة سهل الخطين. خلونا نبحث يكون أحسن حتى ما نتقبل عليه خاصة في صفته. نعم ضليع الفم سابوش التي ضليع الفم التي مشكلة لذلك سيكلا سابوش التي فريمو مشكلة ضليع سواء البطن والصدر صدير sa poitrine et son ventre ils étaient même niveau بارك الله فيك. أشعر المنكبين والذراعين c'est-à-dire il était poilu dans ses épaules et ses bras وأعالي الصدر et la partie haute de Naam, de ses poitrines. Donc on remarquait qu'il était poilé dans ses endroits. Naam, ash'ar al-mankibayni wa al-dira'ayni wa a'ali al-sadr. Aussi, tawil hada fi libas rabban. Ah, afwan. Bouma, nassi na shayt. Ici, fatihi. Naam. نعم طويل الزندين كسيني في الزندين الزندين نعم 61 نعم الزند هو موصل طرف الذراع في الكف سيكوى الزند C'est ça. Non, pas le poignet. Là, cette partie. Ça. Mon c'est le derrière, il est kaf. C'est pas l'articulation, le poignet, non. Cette partie. Voilà, cette partie, elle était. Naam. Tawil, elle était longue. Tawil az-zandayn. Voyez, pour les deux. Cette partie. On met la montre. Voilà. Au niveau de la montre. La montre, on ne met pas. C'est pas l'articulation des mains, non. On parle zand, c'est ça. Tout ça, il s'appelle. C'est-à-dire le bout, ou la partie haut de. Non, que ça. L'endroit où on met la montre, c'est ça zand, si on peut simplifier au endroit, comme ça pour. Naam, parce qu'il y en a peut-être qui ne vont pas voir. Au moins, ils connaissent. Naam. Rahibur Raha. Raha, c'est donc elle était large et grande, naam. Grande de paume, naam, de surface. Ashkalu al-aynayni. Ay, tawilun shaqayhima. C'est-à-dire, les yeux, ils étaient. Non, l'œil, c'est-à-dire comment? Cette distance d'ici vers là, comment on l'appelle?
Le diamètre,
voilà, si on peut le dire, le diamètre, il était grand. C'est pour ça, on dit tawilun shaqayhima. Donc ça c'est shaq. Donc il était long. Et c'est vrai, la personne, soit homme ou femme, qui a des grands yeux, il est plus beau. C'est pour ça, tout ce qui sur le prophète, c'est les qualités de perfection. Je vous le dis ça, c'est l'ulama qui le dit. Celui qui veut être plus beau, ben qu'il ressemble à Zala. Pas moins et pas plus que ça. Naam. Tawilun shaqayhima. Manhousu al-aqibayn. Manhous al-aqibayn. Ma ma'na manhous al-aqibayn. Ay qalilun lahm al-aqib. C'est-à-dire, les talons, il n'y a pas trop de lahm. مش من الحمية كما نقولوا صار مشكل والله مشكلة في نصيحتكم ها voilà c'est-à-dire il avait moins de chair dans les talons pourquoi en fait c'est pas le pourquoi c'est-à-dire le contre c'est une c'est pas une beauté. Est-ce que c'est clair? Toutes ces qualités, c'est-à-dire le contraire, c'est un défaut. C'est pour ça que le prophète, il avait les meilleurs et le plus beau physique.
Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Bayna katifayhi khatamun nubuwah ka zarril hajla ou ka baydatil hamama.
Donc entre ses épaules, entre ses épaules, c'est-à-dire sur la nuque, en dessous de la nuque, il avait le khatam nubuwah, comment on s'est traduit? Le sceau de la prophétie.
Allahumma faqina fid din.
طيب وكان سبحان الله انظروا ايضا اسمعوا سبحان الله يعني الله اكبر
وكان اذا مشى كانما تطوى له الارض ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث.
سبحان الله. Il dit l'imam Nawawi,
وكان اذا مشى كانما تطوى له الارض.
Quand il marchait, c'est comme la terre se plie pour lui, c'est-à-dire lui faciliter la marche. Et ensuite, il a dit, وَيَجِدُّونَ فِي الْحَرْ, c'est-à-dire Sahaba, ceux qui le suivaient, يَجِدُّونَ, c'est-à-dire ils se surchargeaient ou ils faisaient plus d'efforts pour marcher avec lui, pour le rattraper. Et lui, وَهُوَ غَيْرُ مُكْتَرِثٍ, non, il ne... sans se soucier de.
Est-ce que c'est clair? C'est le terme que j'ai trouvé dans le... C'est pour ça que je suis en train de me rappeler.
Il y a un autre terme. Inaperçu. Naam, sans faire attention que eux, ils ont fait beaucoup d'efforts. Wayajidouna. Yani bitashjid al-dal. Wayajidouna fi l'ihara. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus d'efforts que lui en marche. Remarquez, la simple, subhanallah, tous ces... صفات للبروفيت صلى الله عليه وسلم
وكان يزدل شعر راسه
وكان يزدل صدق السفل نو كونترير il lâchait ses cheveux يزدل نقول سدل اليدين مكروه donc il détachait ses cheveux. Est-ce que c'est clair?
نعم. ثم فرقه.
Et des fois, ou aussi, il le détachait ensuite, il le...
Tarraqahu.
Il...
J'ai pas des...
Hein? Non, il le séparait en deux. Vous remarquez cette mecht, cette façon de... Malheureusement, on pense que c'est les femmes qui font ça. Normalement, c'est répandu pour ceux qui connaissent les habitudes. C'est pas les femmes de 2010, non. Ceux qui ont, ils sont attachés aux traditions, on a ça, nos mères, ils sont nos grands-mères, on trouve que quand ils peignaient, c'est ça, leurs cheveux, il y a plusieurs façons. Parmi les façons, ils séparaient. C'est-à-dire les cheveux, ils les séparaient. C'est-à-dire la première partie et la deuxième partie. Au Romain, ils le séparaient. Et ils le laissaient détacher.
Naam. Wa kana yurajjiluhu.
Que signifie? Hein? Non, pas peigné. Le? Naam, le huilier, si on... Naam, le huilier. Tazietuhu, dahnuhu. Dahnuhu, naam.
Wa yusarrihu lihyataihi.
Aussi, il peignait. Voilà, il laissait sa barbe.
Non, moi je le dis, peignir Allahu a'lam.
Naam.
Wa yaktahilu bil ithmidi kulla laylatin fi kulli 'aynin thalathat atrafin 'inda an-nawm.
Allahu akbar. Man ya'mal bil sunnah. طيب. Et il faisait ce qu'on appelle l'ithmid, c'est une catégorie du kohl. Mais la bonne qualité, c'est ce qu'on appelle l'ithmid, c'est pas le kohl. Parce qu'il y a deux. Kohl, c'est une chose, et ithmid, c'est une chose. Ithmid, c'est la bonne qualité. L'ithmid. Normalement, les femmes le mettent, mais aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une sunnah. Si on liste les sunnahs qui existent, Allahu Akbar. Parmi les sunnahs qui le faisaient avant qu'il dorme, chaque nuit, il mettait le ithmid, comment s'appelle ? Comment s'appelle les femmes, comment ils l'appellent ? Al-ithmid. Al-kuhl ou al-ithmid. Mais juste le kuhl, comment on l'appelle ? Le noir, il s'appelle le noir. Je sais pas, Allah, non, c'est pas le noir, mais j'espère qu'il est connu par le terme, même ceux qui ne connaissent pas en français, ils le connaissent par le terme al-kuhl ou al-ithmid. Et le mettez sur chaque œil trois fois, chaque nuit. Ça, c'est une sunnah. Et l'imam al-Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage At-Tibb al-Nabawi, il donne manafi' al-ithmid. Il dit parmi les choses qui. يعني تعين على البصر وتصلح العين تكحيل العينين parmi les choses qui quoi comment dire نعم qui renforce la vision c'est mettre le kuhl et malheureusement nous on est loin de pratiquer ceci et il faut savoir que c'est une sunna de le faire aussi même il y en a qu'on remarque par exemple parce qu'on est recommandé de le jour du vendredi de at-tatayyub ou at-tazayyun parce que c'est notre Eid et habiller le meilleur habit et avoir le bain rituel et se parfumer etc. Parmi les choses il y en a qui font al-kuhl mais il y a un point à juste en parenthèse il ne faut pas dire que c'est juste pour les hommes il faut qu'ils le mettent mais d'une façon pour qu'ils ne ressentent pas aux femmes d'une façon décente, c'est-à-dire léger. Pas trop, parce que les femmes, ils peuvent le mettre en trop, parce que c'est normal, c'est les traditions des femmes. Mais l'homme, s'il le met, il le met, mais vraiment légèrement sur les yeux. Pas d'une sorte que vraiment est apparent. Et on trouve ça, même les savants le mettent. Hein. J'ai vu avec mes propres oreilles, que j'ai vu un certain savant, il a mis, hein, c'est-à-dire, quand il a enlevé ses lunettes, vraiment, tu peux pas le rater. On le remarque qu'il a mis le ismet, c'est-à-dire d'une façon apparente. Mais il faut pas le faire d'une façon très exagérée, d'une sorte de se ressembler aux femmes. Mais si cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Chaque nuit en plus, c'est pas de temps en temps. Na'am. Wa kana ahabbu thiyab ilayhi. On passe aux vêtements. Al-qamisu wa al-bayaru wa al-hibra. Donc, parmi les meilleurs vêtements qu'il aimait, on a al-qamis. Donc là, c'est le qamis, pourquoi on le porte? C'est parce que faisait les meilleurs vêtements qu'il ait portés de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le qamis, et certainement c'est par tradition. Parce que traditionnellement, ils portaient leur qamis, mais quand même, ça ne nous empêche pas de porter leur qamis, parce que c'est parmi les meilleurs vêtements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Et aussi, al-bayad, la couleur blanche. Ici, il aimait beaucoup de porter la couleur blanche. Naam. Wa al-hibra, wa hiya gharbun min al-burud. Fihi khumra. Al-hibra, c'est une catégorie de vêtements rayés en rouge. Rayés en rouge. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ces vêtements qui sont rayés. Et vous remarquez pourquoi, souvent, il est rouge et pas rose ou orange. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. Donc le kum, c'est-à-dire la manche du prophète sallam, elle était jusqu'au poignet. Et une parenthèse, et vous me permettez, c'est une faïda, je vous la donne, comme c'est pas, je fais la remarque pour certains gens. En réalité, dans certains pays, ils considèrent de porter un qamis manche courte, c'est un pyjama. Ouais. Ça, c'est juste, je vous le dis, parce que on a eu la remarque qu'ils nous ont fait à l'époque, parce qu'on portait toujours le truc. Ils ont dit, faites attention, chez nous, c'est pas. Et en particulier en Arabie Saoudite, si vous allez au Hajj Umrah, je vous conseille d'éviter de porter un qamis manche courte. Donc ça c'est bien pour vous, c'est pas pour moi. Mais comme pourquoi? Parce que traditionnellement chez eux, c'est un vêtement de pour dormir en fait. Et c'est vrai, j'étais chez certaines personnes, quand il se déshabillait, ben, il portait le qamis que l'on porte. Et nous, on a la nôtre, parce que traditionnellement, on n'a pas ça. C'est pour ça que je dis traditionnellement. Je ne dis pas qu'il faut toujours porter penche-cour. Non, ça n'a rien à voir. Je dis juste une remarque. Certains pays, dans certaines traditions, ils considèrent. Je ne dis pas en France. On est loin de France. France, portez ce que vous voulez. Je ne vais pas vous dire en France. Dans certains pays, le fait de porter le qamis manche-court, ils le considèrent, c'est un vêtement de pour dormir. Mais c'est juste une remarque. Et j'ai vu avec mes propres oreilles, on était avec le dars de Cheikh Abdelrahman Al-Ajlam, dans son assise, il était en face du Kaaba. Ses élèves, quand même, ils ont remarqué une personne. Il est venu juste avec un t-shirt manche-court. Après l'assise, ils ont fait la remarque, ils ont dit, habille-toi correctement. Pourtant, pour nous, c'est normal. Mais pour eux, c'est dérangeant, c'est gênant. C'est traditionnellement, je dis, c'est pas une sunna ou un délai, c'est juste, eux, ils sont habitués à voir ce vêtement, et c'est vrai, vous remarquez souvent en Arabie, et certains pays de Golfe, la majorité, si je dis 99%, toujours, ils portent le qamis manche long. Remarquez ça. Vous demandez, ce qui est partout, Hajj ou Umrah, toujours vous trouvez jamais, si vous trouvez une personne porte un qamis manche court, certainement il fait partie de nous, soit les Maghrébins, parce qu'on est habitué d'avoir ça. Je précise, c'est pas un ordre, ou de dire c'est détestable, non, c'est juste pas tradition, ils ont ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas vraiment, on ne rentre pas dans ce cas, c'est juste une parenthèse. Et on prouve que, Imam Nawawi, il disait que le koum, c'est-à-dire la manche du qamis du prophète, toujours elle était au poignet, et la rosserie. Donc ça, comment il s'habille le prophète. نعم ولبس في وقت حلة حمراء le prophète sallam portait aussi ce qu'on appelle non le sur-dessus ou comment on appelle le port-dessus ou ce qu'on porte sur les vêtements comme le manteau parce que le manteau toujours on le hein mais après le manteau c'est Allah qui a dit ça va aller. Oui, c'est le port dessus, non, c'est comme le barnos, ceux qui le connaissent, ou c'est comme le menton, mais d'une couleur rouge. Non, en fait, c'est comme le barnos, cher. Voilà, exactement, c'est comme il a dit. Parce que lui, il connaît, c'est pas le meilleur, il connaît un peu, cher. Il a rendu vous, l'homme. Oui, en gros, c'est un truc qu'on le porte. Vous remarquez, des fois, des machères, ils le portent après sur leur qamis, ils portent le... C'est ça, ce qu'on appelle al-hulla, mais d'une couleur rouge. Et de temps en temps, un izar ou un rida. Des fois aussi, ils portaient le al-izar qui est le... comment on porte au hajj? La partie... un pan, un rida. C'est un morceau de tissu, mais on le roule. C'est comme une jupe, une forme d'une jupe. Et voilà. Mais le prophète sallam le portait. Et c'est vrai, c'est une remarque. Cheikh Jamal Harith et Hafidhullah, dans ce dourous, une fois, il a fait une remarque. Il a dit, Wallah, c'est une réalité. C'est pas... Il a dit, en réalité, porter la femme, qu'elle porte une jupe, elle se ressemble aux hommes. Pourquoi? Parce qu'à la base, les Arabes portaient l'izar, et qu'il a une forme d'une jupe. En fait, c'est le contraire maintenant. Oui ou pas? C'est devenu délaissé, et les femmes, ils portent les jupes. Pourtant, c'est le contraire. On ne doit pas dire non, c'est l'homme qui ressemble aux femmes. Non, en réalité des choses, le prophète sallam portait l'izar. Et il le portait, mais certainement on revient aux traditions. Mais je voudrais juste une parenthèse concernant ce qu'il porte, les jupes. Mais bien sûr dans les limites. Naam. Wa fi waqtin thawbayn akhdharayn. Et aussi, de temps en temps aussi, il portait deux vêtements verts. Aussi pour dire la couleur verte aussi, elle était recommandée et aimée par le prophète. Wa fi waqtin jubbah dhayqatul kummayn. Aussi une forme de tissu, mais serré dans les poignets. Et c'est vrai, peut-être vous remarquez, certains qamis ou certains vêtements, ils ont les... pas l'élastique, les... l'adj, ils se ferment avec un bouton. Voilà, ils se ferment, d'une sorte que, malgré les larges, mais au niveau des poignets, ils se ferment. Non. ou l'essentiel, c'est-à-dire il est pas large au niveau des poignets. Naam.
Wa fi waqtin qiba wa fi waqtin amama, et de temps en temps porter l'amama sauda noir. Wa arkha taraqayha,
c'est-à-dire quand il portait l'amama, il lâchait un bout de tissu entre ses épaules, c'est-à-dire la
Roma. Il y en a qui pratiquent l'amama, ils ont une façon de le faire, inshallah.
نعم بين كتفيه وفي وقت
نعم ولبس الخاتم والخفة والنعل
et le prophète صلى الله عليه وسلم portait الخاتم les bagues et الخف on avait déjà parlé les chaussures faites en matière de cuir, mais en réalité ça c'est ce qu'il appelle à la base, ce qu'il appelle khuf, et an-na'l, il a porté les chaussures. Donc on remarque, ça c'était un résumé, comment il était, ou physiquement, comment il était le prophète, on a donné même la description physique, et après on a parlé sur ses cheveux, comment il s'habille, comment, etc. Donc ça c'était une description rapide sur comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point, on va parler, Inch'Allah, sur... Hein? 4 minutes. Une question, comme ça, et on le fait rapidement. Quels sont les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Man hum awladun nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, on connaît Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, qui connaît les enfants? Déjà, il y en a combien? Et après, on va citer les noms. Il y a un des 4, un des 7. Naam Hassan. Il y a des 5. 7. 2 fils et 2 filles. Là. Ah, c'est pas un jeu, les frères. C'est pas un jeu. 4, 3, 6. Non, c'est pas un jeu, les frères. Sérieusement, c'est pas sérieux. 3 filles, 3 garçons. Non. 4 filles et 3 garçons. C'est la réponse correcte. C'est une réponse correcte. Les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont 7. 3 enfants et 4 filles. Quels sont les noms des enfants, garçons? On a Ibrahim. On a Al-Qasim, c'est pour ça qu'il a vu un surnom parmi les surnoms du prophète, Abu Al-Qasim, le père du Al-Qasim, donc c'est un surnom. Il était surnommé par Abu Al-Qasim, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains hadiths. Donc on a Ibrahim, on a Al-Qasim et on a là. Aïe. Abdullah, et les savants sont divergés sur son nom. Et aussi, il y a des autres noms qui s'appellent At-Tayyib ou At-Tahir. Et en réalité, At-Tayyib ou At-Tahir, c'est deux noms, c'est deux autres noms pour de Abdullah. Donc, c'est pour ça, les ulama disent le plus juste, c'est qu'il a 3 enfants. Donc, on répète, Al-Qasim, Ibrahim, le premier, ensuite Al-Qasim, et le troisième, qui est Abdullah. Donc, ça, c'est les 3 enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va parler, Inch'Allah. Non. Les 4 filles sont la première Fatima bintou Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man tazawwaja, qui s'est marié avec Fatima? Ali radiallahu anhu. La deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Kulthum et Ruqayya. Ces deux, Naam, c'est Uthman ibn Affan, Naam, c'est marié avec ses deux filles du prophète. C'est pour ça qu'il s'est appelé Dhinnurayn. Parce que c'est marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement qu'on entend certaines personnes, certains gens critiquent et même maudire Uthman ibn Affan. Ash-Shi'a, comme on le savait, et c'est pas la peine de reparler sur eux, Abbaham Allah, quand il maudit Abu Bakr et Uthman et Omar, ça c'est, on peut pas, c'est pour ça certains gens, il les fait sortir de l'islam, parce qu'il traite des gens qui sont mariés où leur sang s'est mélangé avec le sang des meilleurs, les filles de la meilleure créature qui est les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus avec deux, c'est pas une ou deux. Jusqu'à Aïcha radhiallahu anha, il appelle An-Na'ja, il a surnom par la chèvre. Rabbahumullah. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses, malheureusement. Mais il faut connaître aussi quand même certaines choses. Il ne faut pas ignorer et dire non, c'est... Oui, ils sont comme ils sont, mais il faut connaître ces réalités. Donc, revenons. Ruqayya Umm Kulthum, c'est Uthman ibn Affan qui s'est marié avec elle. La quatrième, qui est la dernière. Aïe. Qui est Hafsa? Là. Quand on dit Umama Bintu, la petite fille du prophète, Umama, qui l'a portée pendant ses bras pendant la prière. C'était Umama, bientôt Zainab. Zainab, la quatrième qui était Zainab, qui? Là, ça c'est la femme, ça. Ça c'est la femme du prophète, parmi les femmes. On parle sur les filles. On parle sur les filles. Les filles, c'est Zainab. Qui s'est marié avec Zainab, la fille du prophète? Là. Zainab. Ruqayya Umm Kulthum, c'est Uthman. Fatima, c'est Ali. La quatrième qui est Zainab Abu al-As ibn al-Rabi'. Abu al-As ibn al-Rabi', radiallahu anhu. Donc, ça, c'est les quatre filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les trois enfants garçons, on a dit Al-Qasim, et Ibrahim et Abdullah, qui a deux surnoms, qui est Al-Tahir ou Al-Tayyib. Donc, ça, en total, ça fait sept. Donc, il faut connaître. Par cœur, c'est sept. On ne peut pas ignorer, on ne peut pas savoir les enfants du prophète. Et donc on s'arrête là. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, on parlera en particulier sur les oncles paternels, c'est-à-dire l'A'mam ou l'A'mat, les deux côtés. Et surtout, on va consacrer des assises chaque mercredi, Inch'Allah. Non, c'est pas demain. Pourquoi je dis demain? Le mercredi prochain, c'est consacré pour la biographie. On consacre chaque assise sur une femme. Des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zawjat, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont combien? Ils sont 11. On va les traiter, on va citer les 11, on va les traiter une par une, chaque assise, on consacrera, inshallah ta'ala, une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aktafi bihad al-qadr, wa astasmahakum ala ta'abur, ala ta'akhur, subhanakallahumma bihamdika, ashadu la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilayka.